Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Clémence. Vous savez qu'on a un nouveau podcast ? Ça s'appelle Wheel of Series et ça sort tous les mardis. On y parle de séries récentes ou de séries cultes, une série à la fois, et comme on est très bavard, on y consacre chaque fois plusieurs épisodes. Pour la collection du moment, on s'intéresse à Game of Thrones. Notez bien Wheel of Series, tous les mardis.
Quand j'ai vu ta caricature... Le mec qui a fait ta caricature, le premier truc que je me suis dit, putain, on dirait Roselyne Bachelot, qu'est-ce qu'il fait? Ça va pas.
Pourquoi tu ressens ça?
Bah, parce qu'en fait, il parle de Roselyne Bachelot.
On y va là, parce que c'est ça quand ça déviait le truc. Mais...
Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit.
Si te gare que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné. Ensemble on se penche sur la sortie du moment, que ce soit en salle, sur les plateformes de streaming ou en DVD et Blu-ray. Avec moi aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Marie.
Salut.
Julien.
Salut Clémence.
Eric.
Bonsoir.
Et Stéphane.
Salut Clémence.
À la technique, celui grâce à qui nos voix ont l'air suaves et notre diction semble parfaite. Bonsoir Alain.
Salut.
Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. Cette semaine, sortez vos mouchoirs. On va parler de Cherry, le dernier film des frères Russo. Oui, j'ai dit sortez vos mouchoirs parce que moi, ça m'a fait pleurer. Mais pas vous. Cherry, c'est aussi le nom du personnage principal, un jeune étudiant américain qui décide de s'enrôler dans l'armée suite à un chagrin d'amour. Formé pour être aide-soignant militaire, il est envoyé sur le front en Irak pour 2 ans, commence alors une longue descente aux enfers. À son retour, le jeune homme souffre de stress post-traumatique et sombre dans la drogue, entraînant dans son sillage sa petite amie Emily. Cette histoire tragique, elle est inspirée d'une histoire vraie, puisque c'est l'adaptation du roman semi-autobiographique de Nico Walker. Vétéran de la guerre d'Irak, ancien drogué, il a écrit ce livre alors qu'il purgeait une peine de 11 ans de prison pour vol avec violence. L'ouvrage a d'ailleurs été publié alors qu'il était encore derrière les barreaux. Derrière la caméra, Anthony et Joe Russo, arrivés tout droit de l'écurie Marvel, ont leur droit, entre autres, les 2 derniers opus de la saga Avengers, Infinity War et Endgames. Ici, exit les super-héros, les 2 frères changent radicalement de registre, avec un drame bien ancré dans la réalité. Mais est-ce que ce changement de ton convainc ? Qu'en pensent nos chroniqueurs ? Allez, je vous écoute. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi ? Julien, ça fait longtemps qu'on t'a
ouais,
pas vu
ça
ici.
Ça fait longtemps, c'est vrai. Pleure. Non, je déconne. Flûte.
Flûte.
Épuisant.
Scorsese.
Joker.
Ok. Bon, ça laisse un petit peu planer le suspense quand même sur, sur votre avis de fond. Vous avez aimé, vous avez
moyen.
Pas aimé. On va voir ça tout de suite. Alors, on commence avec toi, Julien, puisque ça fait vraiment très longtemps qu'on t'a pas vu.
Par où commencer ? En fait, je pense que le truc qui est assez étonnant et le plus flagrant, c'est la forme, en fait. Je sais qu'il ne faut pas séparer le fond de la forme, tout ça, gna gna gna. Mais en fait, c'est assez étonnant, mais je vais y venir, en fait. Je vais venir aussi au fond. C'est-à-dire que cette forme est... Pour moi, ce qui est assez impressionnant, c'est que je trouve que les Russo utilisent toutes les tropes en fait du cinéma d'auteur, on va dire vivifiant, indépendant américain et anglais principalement de ces, allez, on va faire large, 40 dernières années. mais de façon parfaitement dévitalisée, sans aucune imagination. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de voir une espèce de compilation, de manuel, de tout ce que j'avais pu voir chez... Rico a parlé de Scorsese, chez évidemment Kubrick, ça c'est probablement la référence la plus évidente, la plus criarde et aussi peut-être la plus assumée, mais tu pourrais citer, je sais pas moi, Danny Boyle, tu pourrais citer les frères Cohen, tu peux citer voilà, plein de...
Aronofsky aussi. Oui.
Aronofsky évidemment, enfin tu vois tous ces trucs-là et tout, sauf que c'est pas tant que c'est vide de sens, c'est que c'est jamais habité. C'est un film qui est incroyablement emprunté et qui, pour moi, du coup, génère une véritable... C'est irritant, en fait, de voir ça. C'est-à-dire que toutes ces manipulations en fait visuelles, toutes ces dans le bon sens du terme, sont nées parce que tous ces cinéastes-là avaient besoin d'exprimer des sentiments qu'ils n'arrivaient pas à faire passer, disons par une mise en scène plus naturaliste, on va dire, plus réaliste. Mais c'est pas le cas en fait chez les Russo, c'est qu'ils font à la façon d'eux. Et c'est particulièrement problématique sur un film qui se positionne comme justement une espèce de cri du cœur, organique, pas du tout réfléchi, en tout cas pas mercantile, et même qui va à l'encontre de tout ça, quoi. Et moi, déjà, c'était ces deux bonhommes que j'aimais pas trop déjà chez Marvel. Tu vois, tu sentais en fait qu'ils faisaient déjà ça chez Marvel. Je me souviens surtout de leur premier Captain America où ils reprenaient à leur compte de la même façon en fait qu'ils le font pour Chéri. D'ailleurs, je trouve certains archétypes plastiques qu'on pouvait voir apparaître dans le cinéma politique des américains des années 70. Donc des gens comme Pakula, par exemple, et tout. Et ils l'adaptaient en fait au truc Marvel. Alors à l'époque, je n'avais pas développé l'antipathie que j'ai aujourd'hui pour les Russo. Et je m'étais dit, bon, ils tentent au moins quelque chose. Je trouvais que le film était très mauvais, hein, déjà. Mais je me dis, ils tentent quelque chose. Mais là, c'est pas pareil. Thierry, c'est pas censé être un film de studio. C'est un film indépendant qu'ils ont produit en partie avec leur propre denier, je pense. Parce que c'est leur boîte de prod. Hein, qui,
tout à fait. Il y a une bataille entre eux et la Warner, notamment. Bah voilà. Acquérir les droits du livre.
Bah, t'es plus au courant, mais c'est normal, t'es une fan. Mais donc voilà, et en fait, tout ça ça se dévitalise. Pour moi, ça se sent notamment dans le traitement des personnages. C'est-à-dire que je trouve que, très paradoxalement, alors que notamment l'investissement de Tom Holland, dans les faits, il est là, il est indéniable, mais je le trouve hyper lisse, hyper propre, en fait, le mec de A à Z. C'est-à-dire que même quand il est un peu censé être un peu déglingue, un peu cracra et tout, mais j'y crois pas, c'est pas habité, c'est pas là, c'est encore une fois extrêmement emprunté, quoi. Et je viens enfin au fond, c'est-à-dire que je pense aussi que tout ça n'est pas anecdotique et n'est pas sans conséquence sur ce que le film raconte, et je trouve que le film est au final extrêmement réac. C'est-à-dire que, je spoil, hein, mais le ce qui m'a énormément choqué, notamment à la fin, c'est que au final, le salut en fait du personnage ne vient pas de lui-même. En fait, il vient tel que ça t'est présenté. Tu te dis qu'il y a une terre de salut là-dedans et qui est la prison, et que finalement, une fois qu'il arrive en prison, ça t'est présenté comme un endroit, certes, de temps en temps tu peux dire ouais, c'est peut-être un peu dur, mais en tout cas c'est très propre, c'est très nickel. Il n'y a pas de conflit tout à coup dans le film, c'est une espèce de truc extrêmement planant à ce moment-là.
C'est les trois dernières minutes, hein.
Oui, mais il n'empêche que c'est très important, et tu peux évidemment contrecarrer ce que je suis en train de dire en disant mais non, ça vient de lui, de son cheminement et tout, sauf que moi je suis pas d'accord. Je pense que la façon qu'a le film de te présenter, j'ai même pas envie de dire que ça prête à confusion. C'est-à-dire que c'est là, t'as pas l'impression que c'est lui qui se reprend en main, t'as l'impression qu'il est enfin dans un truc aux États-Unis qui pourrait fonctionner et pourrait enfin lui permettre de sortir de cet univers très 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 vicieux. Donc moi ça me gêne extrêmement, et finalement le seul, on va dire, discours véritablement subversif, on va dire, ou critique du moins, parce que c'est pas subversif comme film pour moi, mais de vis-à-vis des États-Unis, c'est vis-à-vis de éventuellement du recrutement à l'armée et éventuellement de la guerre. En gros, c'est un film qui te dit que la guerre, c'est pas bien, quoi, et que ça fait des dégâts. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois quand tu t'as retiré au film tous ces oripeaux, alors c'est horrible de dire oripeaux parce que encore une fois, il emprunte à des gens que j'aime beaucoup, moi, dans le film, mais dans le film, moi, je trouve que c'est des oripeaux. Donc une fois que t'as retiré en fait tous ces oripeaux et tout, tu te retrouves avec la substantifique moelle de ce que finalement le film te raconte. Pour moi, c'est d'une vacuité hallucinante qui ajoute à mon irritation vis-à-vis du film, c'est-à-dire vis-à-vis de cette espèce de machin qui essaye de se positionner comme un gros brûlot anticapitaliste. Et puis, je veux dire, même quand il pose en fait justement ces trucs un peu anti-système et tout, c'est pareil, c'est tellement grossier. Je vais citer juste un exemple, puis je laisserai la parole à mes collègues parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Mais par exemple, il y a un exemple moi qui m'a particulièrement frappé, qui est il braque des banques, beaucoup de banques, le personnage dans la deuxième partie, enfin dans le dernier tiers on va dire du film, et ce ne sont évidemment que des banques imaginaires. Pour moi, le culot, ça aurait été justement de ne pas mettre des banques imaginaires. Mais non seulement c'est des banques imaginaires, mais il faut voir le nom des banques. C'est-à-dire que moi, je me faisais tellement chier que j'essayais de vous lire les noms des banques. Et en fait, carrément, c'est, je crois que t'as fucking Bank of America, un truc comme ça, quoi. Non, Bank Fucks America ou un truc comme ça. Et c'est que des trucs comme ça. T'en as une qui s'appelle No Credits ou un truc comme ça. Mais t'es en train de dire, mais c'est complètement con. Enfin, je veux dire, qui fait ça, quoi.
Ça, c'est un gimmick qui revient à d'autres moments. Parce que par exemple, quand il est envoyé voir le médecin de l'armée, qui doit diagnostiquer qu'il a un stress post-traumatique, on voit que c'est docteur whomever, et en fait systématiquement personne n'est nommé de manière explicite, il n'y a pas de marque.
Oui, parce que alors tu peux dire
ça n'est pas rentré dans le film.
Oui, mais c'est, si tu veux, là c'est pareil, c'est-à-dire que tu sens bien que les mecs ont, je vois leur argument d'ici, parce que il se trouve que j'ai interviewé Anthony Russo. Et c'est aussi le truc que je pense. Alors, j'ai essayé de faire abstraction de ça hein, quand je voyais le film. Hein. Je veux pas faire croire que ça a biaisé ma vision du film. Mais moi, je l'avais interviewé pour Civil War. Et c'est un des réalisateurs les plus à la botte d'un studio que j'ai jamais rencontré. C'était un truc incroyable. Il maniait une langue de bois. Je vais pas revenir parce que ce serait hors sujet tout sur les propos et tout. Mais c'était incroyable. C'est-à-dire, dès que tu essayais de le confronter au système Marvel, ce qu'on lui a imposé, tu vois, notamment, je me rappelle sur la présence de Spider-Man, le mec disait non, ça vient de nous avec mon frère. Il se positionnait déjà comme un grand auteur. Alors que c'était évident que si Spider-Man était là, c'est parce qu'il y avait derrière une bataille juridique avec des gros sous et tout. C'est une évidence que ça vient pas d'eux, tu vois. Mais malgré tout, le mec, il essayait de se faire passer pour une espèce de d'auteur indépendant.
Mais tu sais, je fais une petite parenthèse.
Et c'est évident, finalement, que le mec fait un truc comme Chérie aujourd'hui. J'ai fini ma phrase.
Je t'en prie, mais parce que tu voulais laisser la parole. Donc, voilà,
oui, non, mais t'as tout à fait raison.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, je suis assez d'accord. Et
merci,
en fait...
Réco.
Bon, ça peut arriver, mais...
Et
en fait, quand tu vois leur premier film, Welcome to Collinwood, moi je me souviens, je l'avais
vu
en projection de presse, et au bout de 20 minutes, 30 minutes, je me disais, c'est quand même bizarre, ça me rappelle quand même un film. Et après, je m'aperçois, en fait, c'est un remake d'un film, ils l'ont pas dit, en fait, du Pigeon de Mario Monicelli. Et en plus, c'est un remake très très naze, en fait. Et en fait, ça, in fine, en fait, j'ai l'impression que ça a donné le « là », comme on dit, au reste de leur filmographie, quoi. Où en fait, effectivement, ça va emprunter à gauche, à droite, beaucoup plus à la cinéphilie qu'à l'expérience vécue. Ça se sent particulièrement de Chéri, qui parle de sujets graves et qui est, pour moi, complètement pas habité.
C'était ta... Alors, en plus, il y a aussi les frères Cohen, parce que mine de rien, c'est censé ressembler à ça, tu vois, à la fin, Bienvenue à Collinwood, quoi. C'est que par voie de, oui. de... C'est comme si, dans leur esprit, c'était les frères Cohen qui avaient fait un remake du Pigeon, sans dire que c'est un remake du Pigeon.
Rien, ce film.
Je pense que c'est pas tant que ça a donné le là, qu'en fait, je pense qu'ils sont pas capables de faire autre chose. Déjà, moi, je pense que le positionnement du film, pourquoi j'ai dit Joker, c'est parce que ça me fait penser, en fait, à la même logique, à la même démarche, en fait, que le réalisateur de Joker, là, dont j'ai oublié le nom, là, Todd Phillips, qui d'un seul coup, en fait, se dit, faut que je fasse ma grande œuvre, tu vois, sur un sujet de société, etc., etc.
C'est quand même mieux Joker, hein, je trouve.
Moi, je trouve ça tellement détestable Joker que voilà, je peux pas aller dans ton sens, Eric. Tu vois, je n'en ai pas d'accord.
C'est la peste et le choléra.
Voilà. Mais et puis bon, c'est un film qui, moi, j'ai l'impression d'être totalement oublié aujourd'hui par rapport au barouf que ça fait à l'époque, quoi. Donc il y a cette espèce de truc où attention, on a fait des films de super-héros et tout ça, etc., etc. On les assume, ce que tu veux, etc., etc. Mais on va faire notre film d'auteur à nous. Je crois qu'ils ont même dit que c'était leur film le plus personnel, quoi. Et j'ai envie de dire...
Ça se démarquait vraiment, ça marquait leur sortie de
Ouais, ils vont y revenir, hein, ou ils vont faire autre chose, tu vois. Là, je crois qu'ils ont commencé leur film d'action pour Netflix ou je sais pas quoi. Mais en fait, le truc, c'est qu'un truc en plus hyper cher à 200 patates, enfin voilà. Mais là, le problème, c'est qu'en fait, faire un film personnel en allant chercher justement en fait, le cinéma des autres, il y a une démarche qui déjà me dépasse. C'est-à-dire que, en fait, en gros, ce qu'on reproche, enfin moi, ce que je reprocherais entre faire Rousseau sur un film comme Thierry, c'est pas seulement en fait de pomper Scorsese, Kubrick, Aronofsky, etc. C'est de les pomper spécifiquement sur dans ce que ça raconte. Ils ont besoin d'un côté chronique. Hop, ils vont faire un truc à la Scorsese. Ils ont besoin en fait d'un entraînement militaire. Hop, ils font le truc de Full Metal Jacket. Ils ont besoin de montrer que les mecs sont drogués. Hop, en fait Requiem for a Dream. Et en fait tu te dis ok, donc en fait vous avez même pas cherché à comprendre. Alors moi j'aime pas Requiem for a Dream, mais par exemple vous avez pas cherché à comprendre les démarches artistiques de mise en scène d'un Scorsese qui pour le coup quand il fait ça dans Mean Streets par exemple, parce que c'est là que ça a commencé, en fait il se réclame du néoréalisme italien. Donc en fait le souci pour moi là-dedans c'est qu'il est allé chercher non pas un genre mais un style en fait, si tu veux, de mise en scène qui s'est réapproprié par le biais de sa connaissance cinéphilique. Là il n'y a pas de connaissance cinéphilique. Le truc le plus hallucinant c'est quand on arrive justement à leur période Kubrick, tu vois, en fait c'est carrément le film qui change de format pour adopter le format de Full Metal Jacket. Et là, t'as envie de leur dire le 1.66, tu vois. Et là, t'as envie de leur dire, mais c'est pas parce que vous faites ça que vous faites la mise en scène de Kubrick. Enfin, arrêtez de fumer la moquette. Enfin, comment vous réfléchissez, tu vois.
T'as envie de dire, mais ça veut dire quoi, en fait? C'est-à-dire que Thierry, c'est pas un film postmoderne non plus, tu vois. Je ne pense pas.
Non, c'est un film qui est censé être fluide et limpide.
Voilà, c'est ça. Donc, t'as envie de dire, mais pourquoi, en fait? Pourquoi rendre tous ces trucs-là aussi patents pourtant? C'est vide de sens complet, quoi.
C'est vide de sens et c'est pour ça qu'en fait je fais la comparaison avec Joker, c'est-à-dire que en gros la question que tu te poses, on te demande pourquoi il change de format ou ce genre-là. Enfin moi là, il y a un plan, je sais que c'est un plan dans le film, mais pour moi il est pas possible que ça soit un plan anodin parce que t'as envie de dire mais pourquoi vous avez fait ça vraiment. C'est-à-dire le plan avec la caméra dans le trou de balle de Spider-Man. T'as envie de dire mais
oui, il y a vraiment un plan comme ça dans le film.
Voilà, c'est ça. Donc il se fait ausculter par le médecin. Et en fait, les mecs ont décidé de mettre la caméra dans le trou de balle pour te faire un plan. Et tu peux pas ne pas le voir, en fait. Bon, apparemment, toi, t'as cligné des yeux.
J'ai cligné des yeux à ce moment-là. Ouais. Non, mais vraiment, je suis passé à côté.
Voilà. Et là, à ce moment-là, pour moi, je pense que ça passe ou ça casse. En fait, ça te dévie complètement le truc. C'est-à-dire que moi, en fait, ça m'a. Enfin, c'est même pas que ça m'a dévié parce que j'étais pas dedans. Mais là, d'un seul coup, je me suis dit, OK, donc soit c'est un truc esthétique assumé. Et vous le faites de manière générale sur un film de 2h20. Soit, en fait, vous donnez un sens à ce que vous avez fait, là. Et il n'y a pas de sens. À mon sens, c'est ça le vrai souci que j'ai avec ce film. C'est-à-dire que c'est pour moi... et je suis désolé, hein, parce que je sais que t'as pleuré et tout, mais... Attends, non, mais en fait, c'est pour moi, en fait, pour moi c'est une puberta, ce truc. C'est une pub... tu vois, c'est un truc, en fait, où, si tu veux, c'est que des effets de manche. Ça peut pas marcher. Enfin, moi, je ne suis pas rentré dedans. Et effectivement, là où je suis d'accord aussi avec Julien, c'est que j'aime beaucoup, moi, à la base, Tom Holland. Je trouve que c'est pas un mauvais acteur, malgré le fait que, il tourne dans des films que j'aime pas, de manière générale, qu'il a l'air d'avoir 12 ans, donc c'est quand même difficile de lui filer des rôles matures, tu vois. C'est un peu ce qu'il joue à la fin, si tu veux, donc c'est un peu dommage, tu vois, ça t'y crois
pas
une seconde.
Ouais, mais il a une moustache à la fin.
Et voilà, il a une moustache, tu vois, donc, mais le truc, si tu veux, c'est que, en fait, moi, je l'achète pas, en fait, dans ce rôle-là, parce qu'effectivement, je pense que c'est quelqu'un qui a un niveau de vie... très propre, très clean, il ne doit pas boire, il ne doit pas se shooter, il ne doit rien faire. Donc,
ça fait partie du truc emprunté, c'est-à-dire que de la même façon que les Russos, ils ne connaissent pas ce dont ils parlent, enfin, en tout cas c'est l'impression qu'ils donnent, quoi. Je pense que lui il ne connaît pas ça non plus, qu'il n'a en tout cas pas vécu de l'intérieur vraiment. Quoi.
Et pour compléter ce que tu dis, en fait je pense surtout qu'en gros, à la distinction d'un mec comme Joaquin Phoenix, tu vois, qui est pareil, moi je trouve sa prestation absolument nulle, enfin c'est un mec qui se voit jouer, qui se regarde jouer, quand je regarde le Joker, tu vois, bah lui tu sais qu'il est un peu déglingo, donc bon à la limite si tu veux ça peut passer quoi, mais là l'autre il est trop propre, en tout cas il a pas le bagage, tu vois, pour jouer un rôle comme ça, donc c'est là où en fait si tu veux je suis pas rentré, voilà, et après...
Oui, des gros plans Tom Holland, je me suis dit, putain, il a une belle peau, quoi. Putain, je me demande quelle crème il prend, tu vois. Enfin, ça vous a pas ça, il est tout nickel, quoi, le mec, c'est hallucinant.
Enfin bon, on a beaucoup parlé.
Jamais dans le film, en fait, ils ont vraiment l'air de vrais junkies. En fait, ils sont c'est toujours. Enfin, même quand ils se vomissent dessus, tu vois bien que c'est un mélange de blédina qu'on vient de lui mettre dans la bouche ou un truc comme ça. Même le vomi, il a l'air faux. Après, je suis d'accord avec à peu près tout ce que vous avez dit. Et je te rejoins, Stéphane, sur ce que tu disais. En fait, j'ai l'impression de regarder une bande démo avec tous les effets possibles et toutes les références possibles. Et tu dis, mais en fait, on dirait un premier film ou presque un film d'étudiant, évidemment, avec des très gros moyens. Mais c'est je vais essayer de faire mon film de guerre, je vais essayer de faire ma petite romance teen movie, je vais faire mon film de braquage. Bon, il fait pas son film de prison parce que du coup, au bout de 2h20, ils avaient plus le temps. Ils se sont dit, on va le faire en 3 minutes et on va voir qu'il a une moustache qui pousse. Et du coup, voilà, on voit que le temps est passé. Et en fait, c'est hyper. Moi, ça m'a fatigué parce que je me disais, mais à chaque fois. Et alors, il y a plein de choses et qui sont bien faites si on les aime, mais c'est toujours décorrélé du sens. Et comme tu disais, là, ce plan à travers son anus, et tu dis, mais en fait, alors ça, je l'ai vu plein de fois dans des traumas, dans des oui, séries B, des séries Z et tout. Mais qu'est-ce que ça fout là, quoi? Et moi, vraiment, à ce moment-là, j'ai fait non, mais c'est juste plus possible. Enfin, ça m'a vraiment sorti du film à ce moment-là, quoi.
C'est une volonté, je pense, de le salir, le film, tu crois pas? Non,
c'est,
je peux,
ouais,
moi,
mais
je l'ai pris
mais
comme ça.
Mais
en
c'est
fait.
Hyper artificiel, ah, non, du coup, sûr, de le salir comme ça, alors que tes personnages, ils sont hyper propres. Enfin, tu vois, la saleté, elle vient pas au bon endroit, en fait.
Ce qui est assez marrant de se plante du cul, en plus, c'est que moi, je l'ai trouvé, l'anus, je l'ai trouvé hyper. Enfin, je sais pas si ça fait ça, mais il est hyper clean.
Mais oui, mais c'est ça.
Il est bien sculpté. Non,
mais
tu vois la plastiline là, comment ils ont sculpté le truc et tout. Ouais. Je pense que c'est du silicone qu'ils ont.
Mais tu vois, même quand ils le salissent, ça reste propre, tu vois.
Oui, mais ça doit puer. Enfin, tu vois, normalement, tu vois ça, t'es à l'intérieur du cul, même de Tom Holland, je pense.
J'ai vraiment l'impression d'être passé à côté de quelque chose d'important.
T'aurais peut-être pas pleuré si t'avais vu ce plan-là, qui, tu vois.
Ça se trouve, ça a complètement modifié ma vision.
Ce plan-là aussi, il dit quelque chose. Je pense qu'en fait, les Russo, c'est des gens qui, depuis, surtout les Avengers, qui storyboardent comme des malades. Ça se voit sur le film, que tout est super, super storyboardé et prépensé. Et ça me faisait penser aussi à ce que disait à un moment Scorsese sur Marvel. Où il disait en fait c'est pas du cinéma, quoi, parce qu'il avait cette impression qu'en fait il y avait aucun risque de prix dans les mises en scène et que tout était storyboardé mais pas nécessairement par les auteurs, aussi pas mal par les studios. Et là quand on voit ça, en fait, c'est-à-dire c'est censé être leur film personnel où ils reprennent les rênes, et en fait là on s'aperçoit qu'ils ont rien à raconter. Je pense qu'il y a un gros problème d'écriture aussi. Le film est scénarisé par leur sœur, je crois, et une autre scénariste ensemble. Mmh. Et il y a un très très gros problème, c'est que tout est prévisible en fait dans le film, je trouve. Il y a pas ce moment inévitable où on se dit, enfin ce mélange d'imprévisible et d'inévitable, pardon, où on se dit tiens on est happé par qu'est-ce qui va se passer. Au contraire, en fait, ça suit des étapes de parcours héroïque très très mal digérées, parce que le mec a pas de défaut, parce qu'en fait il a pas de, comme le disait Julien, il a pas de conflit interne, tout lui arrive dans la tête comme ça, de manière un peu hasardeuse. Et du coup, en fait, on a du mal à se plonger là-dedans, d'autant plus que ce que tu disais, Julien, c'est intéressant sur et je pense que les Russo, ils l'avaient même dit sur Avengers, que c'était une critique de l'Amérique, etc. Et là-dedans, on voit,
il citait le Parrain 2, tu vois. Déjà, je me rappelle sur le premier Avengers, moi, c'est Josh Brolin, c'est ce qu'il disait. Ouais, les mecs m'ont parlé du Parrain 2, j'ai
Et là, on voit en fait qu'ils essayent d'avoir une critique de l'Amérique, mais en fait, pour avoir une critique, il faut avoir évidemment quelque chose à dire. Mmh. Et si on le compare à un film qui a beaucoup moins d'effets, qui a sans doute beaucoup moins d'argent et qui aura malheureusement beaucoup moins de notoriété, qui est Dead President, par exemple, des frères Hughes.
Oui, j'y ai pensé aussi.
Voilà, là, on se dit, là, c'est un film qui a un vrai propos, qui a une vraie raison d'exister.
Alors, c'est marrant, ouais, c'est vrai, parce que en fait, cette problématique de reprendre Scorsese, c'est que c'est pas, en fait, on peut pas reprocher Russo de le faire. D'être les premiers à le faire, hein, puisque tout le monde le fait depuis maintenant 25-30 ans, quoi. Notamment, bon, là vous avez cité Dead Presidents parce que c'est vrai que les frères Hughes s'en réclament, mais je trouve que c'est déjà fait différemment, mais aussi par exemple Paul Thomas Anderson, c'est ce qu'il fait clairement quand il fait Boogie Nights. Mais le truc, c'est que ma problématique, en fait, c'est que eux, ce que font ces cinéastes-là, c'est qu'ils reprennent ce style. Ils le reprennent, si tu veux, pour raconter leur récit. Ils se disent, tiens, je vais raconter quelque chose de l'ordre de la chronique, de l'ordre de comment je vais mixer les voix-off, les choses comme ça, etc. Scorsese lui-même, en fait, il se reprenait complètement. Enfin, quand tu vois Casino, c'est la version hyperbolique de son style, en fait, on va dire, tu vois. Et d'ailleurs, même, enfin, il a finalement, même quand tu vois The Irishman, c'est presque qu'on lui reprochait de pas faire, en fait. C'est-à-dire de lâcher un peu ce genre de truc, quoi. Et donc, pour essayer d'être objectif, on va dire, sur la problématique, le vrai problème, c'est pas tant qu'ils reprennent Scorsese ou Kubrick, c'est qu'à un moment donné, ils reprennent Scorsese et Kubrick à travers le trou de balle de Spider-Man. Pour moi, il est là le problème. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai envie de dire, et pourquoi ? Tu vois, enfin, expliquez-moi, c'est quoi votre logique ? C'est-à-dire que tous ces plans, finalement, toutes ces images, toutes ces choses n'ont pas de sens. C'est-à-dire que, alors, Et moi, j'en reviens à ma question initiale. Pourquoi t'as pleuré?
Alors, je peux vous expliquer pourquoi j'ai pleuré, parce que j'ai conscience que c'est un film qui a des défauts. Alors, je vais peut-être pas l'expliciter autant en détail que vous, mais oui, j'ai vu qu'effectivement, il y a plein de choses qu'on peut lui reprocher. Mais moi, ça m'a touchée parce que, bah, justement, toi, Julien, tu trouves que le personnage, il a l'air d'avoir 12 ans, qu'il est lisse. Et ben, moi, c'est sa jeunesse, en fait. C'est de voir ce gamin qui part alors qu'il est encore étudiant. Et c'est un bébé qui part faire l'armée. Elle, alors, elle a l'air, mais encore plus jeune que lui. Et il revient. En fait, les films de guerre qu'on voit avec des vétérans, quand tu dis un vétéran qui a fait la guerre, t'imagines un vieux mec qui a une barbe et qui dit « j'ai fait le Vietnam ». T'imagines pas un gamin de 21 ans à peine. Et de voir les conséquences que ça peut avoir, et donc là, on est bien au-delà de la mise en scène, on est sur juste ce que ça raconte dans le fond et ce que raconte le roman, et comment la guerre peut détruire des gens,
ouais, bah, ça m'a remué. Je le sens pas, moi, ça, en fait, Clément. C'est ça, moi, le problème, c'est que je le sens pas, quoi. Le truc aussi que je voulais dire, c'est, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Marie, sur le côté film d'étudiant et tout, et c'est vrai que... Il y a presque un moment, j'ai eu presque l'impression de voir un film qui avait ses défauts par maladresse, c'est-à-dire par... à un moment, je me suis dit, bah, ça n'a pas duré très longtemps, je me suis dit peut-être qu'ils essayent de trop bien faire, peut-être qu'ils essayent de trop mettre en scène, parce que je suis partisan aussi de ce cinéma-là, c'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut... Enfin, tu peux totalement tout storyboarder sur un film qui est en prise avec le réel, que tu peux être décorrélé d'une vision naturaliste des choses vis-à-vis du réel, etc. Et je me suis dit, bon bah voilà, ils ont essayé de faire ça et puis ils sont perdus en chemin. Sauf que, en fait, et c'est là aussi où l'irritation est totale, c'est que je pense qu'en fait il y a un vrai calcul là-dedans. C'est-à-dire que c'est un film aussi qui, dans tout ce qu'on lui reproche, c'est une volonté en fait de, comment dire, de, c'est putassier en fait vis-à-vis en fait de ce cinéma indépendant, viscéral en fait qui cite. Et je le vois moi notamment à travers un choix dans l'équipe technique et Newton. Thomas Siegel, en fait, Thomas Newton Siegel, pardon, je crois que j'ai inversé un truc, mais qui est un directeur photo, moi, que j'adore, et qui est surtout un mec très, très intéressant, qui a fait Les Rois du Désert, notamment, qui est aussi encore un truc qui est, je trouve, David Russell et tout, et pas mal cité aussi dans Thierry, d'ailleurs. Et qui est aussi, je pense qu'ils sont allés le chercher parce qu'il a une capacité à passer, on va dire, d'un échange dialogué, plutôt tourné caméra à l'épaule, avec un peu sur le vif comme ça, avec des choses qui sont très travaillées, comme l'espèce de plan au drone là, qui ouvre la scène de guerre, par exemple, dans Thierry. Et tout ça est vraiment fait partie, en fait, du calcul en fait des Russo, de la même manière que ces mecs-là approchent avec un point de vue d'exécutif de studio les films qu'ils ont fait pour Marvel, quoi, voilà. Et ça moi ça me rend le film assez détestable, quoi.
Après moi j'aimerais bien rebondir sur un truc que Clémence elle a avancé, c'est-à-dire que moi ce qui est difficile pour moi aussi de émotionnellement, c'est pas seulement qu'une question de ressenti, c'est une question aussi de structure d'écriture, tu vois, c'est-à-dire que en gros je pense que ce film il a un problème de représentation. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est que, par exemple, la scène de guerre et tout ce qui se passe en fait en Irak et tout, t'as pas une seule fois l'impression que c'est en Irak. Et pas seulement parce que, en fait, en gros, ils ont tourné en Californie ou je sais pas où, tu vois, en fait, pour avoir le désert, tu vois. C'est que et je demande pas un point de vue de l'ennemi, mais je demande un point de vue de tout court de ce qui se passe là-bas, tu vois. Et là, tout ce qu'on a, c'est... Je me suis fait cette réflexion... Quand ils sont en plein dans une scène de bataille, et en fait ils sont en train de tirer, je me suis dit, ils tirent sur qui? On voit pas l'ennemi, on voit rien. Et après je me suis demandé comment ça se fait qu'on voyait jamais l'ennemi, comment ça se fait qu'on les voyait jamais en ville, comment ça se fait qu'on les voyait jamais en fait en dehors de la base et tout ça, etc.
On les
voit
un peu avec les gamins.
T'as l'interaction avec les enfants. Traverse.
À un moment, ils vont aider quelques villageois.
Ouais, tout voilà, ça. Bon, d'accord, tu vois.
C'est vrai qu'effectivement, c'est.
Et pour moi, et c'est surtout, c'est un truc d'angélisme à deux balles, tu vois. Je suis désolé, ce passage-là, tu vois, avec le personnage de Tom Holland. Mais le truc, si tu veux, c'est que je me suis dit.
Ça fait partie du côté un peu réac du film. C'est-à-dire, je vois pas le Oliver Stone donner un 4 juillet, puisqu'on parle encore là aussi, il y a des ponts avec ces deux films. Et là aussi, on voit bien comment la jeunesse est brisée, tu vois, pour le coup, d'en un 4 juillet. Mais un 4 juillet, jamais il aurait fait un truc comme ça, je pense.
Et surtout, le truc, c'est que comme tu vois pas tout ça, en fait, ça m'a fait poser la question de mais en fait, on voit rien. C'est-à-dire, il y a une vraie problématique de représentation. Ça concerne pas que la scène en Irak, ça concerne tout le film. C'est-à-dire que, en gros, c'est un petit ange, ce gars. tu vois. C'est-à-dire qu'il se drogue, alors il drogue sa nana, c'est tu vois. Victime, enfin, ouais. Voilà, c'est une victime. Et en fait, c'est ce qui est problématique pour moi. C'est pour ça aussi que je rapproche ça de Joker, parce que Joker, je le vois comme ça aussi. Si tu veux. Pour moi, c'est vraiment un film sur les victimes, si tu veux. Mais qui, je trouve, en fait, s'assume pas, parce qu'en fait, il passe justement à côté de ce qu'ils sont censés vraiment raconter, quoi, vis-à-vis des problématiques de la société, on va dire, tu vois, actuelles. Mais le problème là-dedans, si tu veux, c'est que émotionnellement, moi, je peux pas être attaché à un personnage, si tu veux, qui presque n'est jamais faillible. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait,
Mais je sais plus où j'ai lu ça, mais je disais que dans le bouquin, en fait, a priori, leur relation, en plus, elle est pas comme ça. Elle le trompait, il s'engueulait tout le temps. Alors et du coup, ça, tu le vois pas. Et en fait, c'est pour ça que tu te dis. En fait, il y a du misérabilisme quand tu les regardes en te disant, oh, les pauvres, ils sont mignons, ils sont tout petits, ils sont machin. Mais en fait, ils avaient une relation très compliquée et qu'ils se séparaient, ils se remettaient ensemble, ils se trompaient, machin. Et ça, tu le vois jamais. Tu finis sur quoi? Tu finis sur elle qui vient le chercher à la fin en prison et.
Mais ce qui serait extrêmement payant, si justement, ils avaient traversé tout ça.
Ouais.
Tu vois, c'est ça le truc.
Mais la motivation, enfin, je trouve qu'une des plus belles motivations que tu puisses trouver à un héros de cinéma, c'est de la culpabilité. C'est qu'il culpabilise, quoi, le personnage. Qu'il commette un crime initialement dans le récit et qu'il se batte contre lui-même pour réparer ce crime-là, quoi. Moi, c'est ça aussi, c'est que tous ces films aussi qu'on cite, pour revenir à Né un 4 juillet qui, peu ou prou, a la même structure narrative, le personnage de Cruise, il tombe pas dans la guerre complètement par hasard, tu vois. Il y a une volonté là-dedans et tout. Et le mec, il doit assumer le poids de ses actes. Là, le truc là-dedans, c'est que je dis pas qu'il aurait dû avoir le même parcours pour aller à la guerre. C'est pas ça ce que je mets, mais ce que tu dis, Marie, le fait qu'il l'ait gommé, ça, c'est vachement intéressant. Parce que justement, il y aurait eu, ce couple-là aurait été faillible. Ils auraient eu des choses à se reprocher. Là, tu aurais eu une tension qui aurait fait vivre tout à coup les personnages, qui les auraient rendus humains. Tu as besoin de ça, en fait, dans ce type de film, quoi. Et là, c'est des coquilles vides.
Puis le retournement, en plus, de quand elle décide de se mettre à se droguer avec lui, c'est hyper débile, en plus. C'est vraiment... c'est genre, oh, j'en ai marre, t'es tout le temps défoncé. Ben, je vais me défoncer aussi. Et tu fais, ouais, mais quel incroyable ressort narratif, c'est fou.
Et là, tout d'un coup, en fait, au lieu d'une analyse de ce que c'est que les gens qui se droguent, etc., on est direct dans un truc où les rideaux sont fermés, il n'y a plus d'obscurité, il n'y a que de l'obscurité. Et ils ont des maquillages pour montrer qu'ils sont complètement drogués, donc on passe à côté.
Ouais, ils sont toujours à moitié à poil, voilà. Et mal sapés.
C'est ça,
et
d'un
voilà.
Portrait psychologique qui aurait été important là.
Ça, et puis aussi de dire que la drogue, c'est cool aussi au début. C'est aussi, tu vois, ça aurait pu être intéressant, quoi, de dire qu'ils prennent leur pied. Alors que là, juste le truc, c'est « Ah, ça m'a distancé mes malheurs parce que j'ai beaucoup souffert ». Non, ça pourrait être beaucoup plus intéressant de dire, voilà, qu'ils sont un peu là-dedans, quoi.
Et puis, bon, lui-même tombe dans la drogue assez bizarrement aussi, quoi. Tu vois, finalement, c'est en un clin d'œil, quoi, comme ça. Tu vois, enfin, c'est ça, en fait. C'est, pour moi, c'est ça, la problématique, en fait, si tu veux. C'est que en gros... Quand il braque, en fait, il y a toujours une nécessité, si tu veux, qu'il lui tombe sur la gueule, en fait. Donc, quand il se met à braquer des banques, en fait, si tu veux, tu vois quand le film commence et qu'il est censé être méchant et qu'il dit, ah, moi, je leur gueule dessus pour leur montrer, etc., mais t'as envie de dire, tu le fais jamais.
Ouais,
le reste
oui,
du
parce
film,
qu'il est tout, toujours hyper attention à tirer sur personne, à blesser personne et à être limite poli, quoi.
Ce qui veut dire qu'à la fin, dans cette problématique de représentation, pour moi, le souci, c'est que, en gros, c'est un film qui veut surtout pas choquer son spectateur, si tu veux. Éventuellement, veut le faire pleurer, tu vois, voilà. Non, mais je pense que c'est leur volonté.
Est-ce que tu vas encore pleurer après tout ce qu'on... après toutes nos cochonneries, là, tout ce qu'on a dit?
Ah bah, je pense pas que je le reverrai. Je vais pas déplorer, alors je peux pas ravaler mes larmes.
Mais c'est pas ce que je te demande.
Mais de toute façon, enfin, voilà, moi, je contrôle pas mes émotions. J'ai pas décidé de si j'allais pleurer ou pas avant de le voir.
Mais faut pas écouter Julien, il se moque. C'est pour
juste
ça,
c'est que
je me moque absolument pas. Moi, j'ai envie d'avoir pleuré.
C'est
à
juste
cette
que
merde.
J'ai.
mais c'est une victoire quand tu pleures. C'est chouette, quoi. Je vois pas un film pour me faire chier et m'énerver contre moi. Mais bon, là, c'est raté.
Mais c'est intéressant, en fait, parce que ces gens-là qui ont fait deux Avengers, là, quand ils se positionnent sur un film comme ça, qui est censé, mine de rien, pour prendre un terme assez large, être un peu politique, bah, les gens qui ont vu leur film avant et qui connaissent un peu le cinéma, ils disent bah non, les gars, non, on vous veut pas, en fait, comme les mentors, les représentants de ce type de cinéma-là. Ça va pas, en fait, vraiment. Et ça, c'est intéressant, je trouve. C'est intéressant que dès le départ, en fait, c'est ce que je disais avec Stéphane quand on l'avait vu, c'est exactement, en fait, un peu, mais vraiment au plan près, quoi, le film qu'on attendait d'eux, quoi. Vraiment. quand on n'est pas enthousiaste devant les Avengers. Ce qui, bon, après, il y a des gens qui aiment ça et qui le défendent bien. Moi, j'arrive pas à les regarder, ces trucs-là. Je trouve qu'ils sont trop... C'est trop calculé, storyboardé. Il y a trop de personnages.
Ah non, t'es remonté contre le storyboard, là, Rico. Qu'est-ce qui se passe?
Mais un peu parce que dans ce film...
C'est pas storyboardé par eux, Julien.
Parce que dans ce film-là, je trouve que ça se sent beaucoup trop et que effectivement, ça tue les accidents heureux qu'il pourrait y avoir dans les mises en scène et avec lesquels les grands metteurs en scène jouent beaucoup, voilà.
Mais c'est pas habité, je pense que c'est ça le truc de clé en fait.
Mais tu vois, ça m'énerve pas chez Hitchcock, hein, qui storyboard tout, mais qui arrive à infuser ça d'une perversité.
C'est Hitchcock, il le cite pas, Hitchcock, c'est étonnant ça, pour le prochain peut-être. Tu vois.
Alors au final, ce film, est-ce qu'on le regarde ou pas?
Oui, bah oui,
finalement,
deux fois.
Non. Et si on le regarde pas, qu'est-ce qu'on regarde à la place?
Mais ça, c'est une bonne question.
On est un 4 juillet.
On est un 4 juillet, Dead Presidents. Hein. Moi, je trouve qu'il fait partie en fait de ces films-là et qui a
un peu été oublié.
Hein. Ouais.
Bah, c'est-à-dire, vous allez sur IMDb, vous cherchez références, tu vois, et en fait, tu prends toute la liste et tu regardes ça plutôt que regarder de Chéri. Non, mais enfin, en fait, c'est ça aussi le truc, c'est qu'en fait, on l'a déjà.
Sur la partie prison, ouais, tu regardes la série.
Ouais.
Mais la partie prison, c'est 3 minutes encore, Antoine. Ouais. Non mais voilà, donc c'est...
Non mais le problème des prisons aux États-Unis, c'est pas rien. Encore une fois, je suis désolé de bloquer. Toi, tu bloques sur le trou du cul de Tom Holland en silicone.
Alors je bloque sur le plan, attention.
Mais moi, je pense que cette prison, c'est encore une fois un truc important. Et aux États-Unis, le problème de la prison n'est pas un mince problème. C'est pas un petit problème. Et ce qui se passe avec les prisons, et ce qui se passe avec la place de la prison là-dedans. Donc c'est pas anecdotique, encore une fois, que la résolution naisse là-dedans et de cette façon-là, je trouve.
Ok, Julien.
Non, mais tu vas. Donc, on le regarde, évidemment, Clémence, pour se faire une opinion. Voilà.
Et pour donner son avis.
Son avis à la fin, oui.
Marie, une conclusion?
Non, j'ai même pas de quoi conclure sur ça. Non, moi, je le recommande pas, mais oui, faites-vous votre opinion. Et puis, oui, et puis voilà, pour ce plan d'anus, franchement, ça vaut le coup. Il arrive qu'à 38 minutes à peu près, donc ça va, on peut s'arrêter après.
Bon. Mais voilà, on restera là-dessus. Si vous voulez vous faire votre propre avis et voir en gros plan l'anus de Tom Holland, hein, vous pouvez regarder Chéri, c'est disponible
sur
silicone, Apple.
C'est pas le sien. Je pense pas qu'il l'ait moulé. Je peux t'expliquer techniquement. Alors en fait,
Chéri est disponible sur Apple TV+. Et vous, vous en pensez quoi? Un petit mot, une courte phrase, dites-nous tout sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Dans la dernière émission, on parlait de Sacrée Sorcière, adaptation du célèbre roman de Roald Dahl par Robert Zemeckis. Une version pas parfaite, mais pas ratée non plus, selon nos chroniqueurs. Mi-figue, mi-raisin, comme dirait Yannick. Et nos auditeurs, alors, ils en ont pensé quoi? Alain, livre-nous donc tous les secrets du répondeur.
Salut équipe de Capture Mag, un petit message pour parler un peu de Sacrée Sorcière que j'ai trouvé vraiment très très cool. J'ai un petit bémol sur la toute fin, que je trouve un peu déconnecté du reste du film. C'est un Zemeckis peut-être un peu sage, en apparence du moins, mais qui a le mérite d'être généreux avec son spectateur, frais et surtout sans cynisme, ce qui est plus que bienvenu dans le paysage audiovisuel actuel. Voilà, merci pour votre travail et longue vie à Capture Mag.
Et bonjour à l'équipe de Capture Mag. Et ben moi je voulais réagir par rapport à Sacrée Sorcière, qui est un bon film de Zemeckis, c'est un petit Zemeckis. Ça se laisse regarder. Je l'ai maté avec ma gamine de 9 ans qui a littéralement hurlé devant Jurassic Park. Et là, elle est restée devant sans problème. Elle a rigolé, elle a même demandé à le revoir. Et puis, ça fait quand même du bien de voir un film familial qui nous prend pas pour des jambons.
Mais ce film est soigneusement écrit. Ça alors, il est soigneusement mis en scène. Il est cadré. Éclairé, joué, mais que vois-je? Mais c'est du cinéma!
Bon, pas de bol, on n'a pas pu déguster au cinéma la dernière soupe du chef Zemeckis, mais elle reste quand même très goûtue. C'est sans doute une déformation professionnelle parce que j'ai été animateur quand j'étais étudiant, mais j'ai l'impression, dans le livre comme dans ce film, de voir une sorte de sommet de carrière d'animateur en termes de grands jeux pour colonies de vacances ou centres de loisirs, et un vrai plaisir de s'adresser au spectateur ou au lecteur comme un enfant et de le convier au jeu. Ça se sent dans le travail des points de vue et des rapports d'échelle où on a toujours l'impression de jouer en équipe avec les personnages.
Salut Capture, c'est Sébastien pour vous parler de The Witches, Le film est plutôt sympathique, c'est pas désagréable à regarder, pas de problème là-dessus. Je trouve simplement dommage qu'il abandonne dès au bout de 20 minutes tout le rapport entre le petit héros, sa grand-mère, tout ce qu'il pouvait avoir vis-à-vis de ses parents. Et c'est bien dommage parce que le film regorge de séquences visuellement qui sont vachement réussies. Et donc ponctuellement, c'est un film qui fonctionne et qui fondamentalement n'est pas désagréable à regarder, même si ça reste un petit Zemeckis. Voilà, merci, salut.
Sale temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Julien, Eric, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode.
Merci à toi.
Merci.
Merci.
Pour ne pas rater les prochaines émissions, pensez à vous abonner. Et si vous nous écoutez pour la première fois, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement aux tipeurs et aux tipeuses. Ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis si vous n'avez pas de sous, pas de panique, vous pouvez nous soutenir de plein d'autres manières. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez de nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra travailler sur de nouveaux formats vidéo. Dernière petite précision, on vous l'a déjà dit, mais ça ne fait pas de mal de le répéter. On a changé de date de diffusion, hein. Désormais, on est diffusé tous les mercredis. Allez, cette fois-ci, c'est fini pour de bon. On se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à mercredi prochain.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.